Il est 6h.
La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement. Toutes les 12 minutes, un Francilien est admis en lit de réanimation en Île-de-France.
L'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain en région parisienne à tel point que des transferts de malades vers d'autres régions sont prévus dans les prochains jours. Dans ce journal, les prévisions de l'INSEE pour les prochains mois, la forte tendance à l'épargne se confirme. Emmanuel Macron au Centre Spatial de Toulouse aujourd'hui pour suivre presque en direct les aventures martiennes du robot Persévérance. Et puis la 46e nuit des Césars ce soir avec une Marina Foïs en chef d'orchestre d'une cérémonie qui s'annonce inédite.
À suivre le journal des sports de Jean-François Pérez et mon invité inattendu, une bijoutière qui s'apprête à passer 40 jours à 400 mètres sous terre dans le cadre d'une expérience scientifique menée par l'explorateur Christian Clos. Accrochez-vous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Toutes les 12 minutes, un Francilien est admis en réanimation en Île-de-France. Les mots d'Olivier Véran donc à propos de la situation particulièrement inquiétante dans la région en ce moment. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. Une tension que ressent le docteur Mehran Monchi depuis déjà un mois. Il dirige le service réanimation à l'hôpital de Melun.
La pression sur l'ensemble des services de réanimation de l'Île-de-France est une réalité. On peut être certains jours à 100% de lits occupés. Tous les jours, il y a évidemment des patients qui sortent et d'autres qui arrivent. Et actuellement, avec une quarantaine de lits, effectivement, il y a des moments où le nombre de lits est limite. L'activité va rester élevée et nous, on ne voit pas l'activité, le nombre de patients pour l'instant diminuer. L'effet du variant anglais sur l'augmentation de l'épidémie s'est fait ressentir maintenant. Il est possible que ça n'aille pas au-delà, mais on ne peut pas prévoir.
Des propos recueillis par Yasmina Katou.
Et hier soir, le ministre de la Santé est aussi revenu sur la polémique qui enfle autour du vaccin AstraZeneca.
Mais pour l'instant, la France n'a pas l'intention de suspendre son utilisation, affirme Olivier Véran. Une mise au point après que 3 pays du nord de l'Europe ont, eux, décidé de mettre ce vaccin de côté.
D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'un effet indésirable grave est déclaré. Mais de quoi parlons-nous ? Sur 5 millions d'Européens, 30 personnes ont présenté des troubles de la coagulation. Chaque dossier de ces patients est évidemment analysé pour chercher un lien de causalité avec la vaccination. Ils n'ont pas encore été identifiés formellement. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire le bénéfice apporté par la vaccination, est donc jugé supérieur au risque à ce stade. Évidemment, des investigations sont en cours en France et à l'étranger. L'Angleterre, qui a vacciné des millions d'habitants avec le vaccin AstraZeneca, enjoint à poursuivre la campagne vaccinale et n'a pas objectivé à très large échelle de surrisque d'effets indésirables graves.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce constat alarmant de l'UNICEF après un an de pandémie, avec la fermeture des écoles, la hausse de la pauvreté et de la dépression, les indicateurs qui mesurent le développement des enfants et adolescents ont presque tous régressé, ce qui pourrait entraîner de lourdes séquelles pour toute une génération.
La crise sanitaire a également entraîné une nette baisse de la consommation. Résultat, l'année dernière, les Français ont beaucoup mis d'argent de côté.
Près de 15% de taux d'épargne à plus de 21%, mais selon la note de conjoncture de l'INSEE, Olivier Samin, cette épargne n'a pas été la même pour tout le monde.
Oui, 10 000 euros, c'est la somme moyenne que les 25% de ménages les plus riches ont pu épargner l'année dernière, faute de pouvoir consommer. Les 25% les moins riches, eux aussi, ont pu économiser, mais beaucoup moins, en moyenne 200 euros seulement. Logique, les restrictions sanitaires ont surtout pénalisé les achats d'agréments, restaurants, voyages, loisirs. Autant de dépenses que les ménages modestes peuvent rarement s'offrir. Mais ce que révèle l'INSEE, c'est qu'avec ces 200 euros épargnés l'année dernière, les 25% de ménages les plus modestes ont vu leur patrimoine financier bondir de 32%, tandis qu'avec leurs 10 000 euros non consommés, les ménages les plus aisés ne se sont enrichis que de 6%. Quand le pauvre se voit soudain riche, le riche pourtant mieux loti ne se rend compte de rien, ou presque. La Fontaine aurait pu en faire une fable.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Peut-être une initiative pour désengorger les cantines scolaires sous temps de Covid. Ça se passe dans un lycée privé de Nantes et ça pourrait inspirer d'autres établissements.
Oui, un food truck installé dans la cour afin que les repas
puissent être pris
à l'heure.
Exactement,
vous allez l'entendre. Des repas qui pourraient être pris à l'heure et dans le respect des règles. Et effectivement, le concept semble faire l'unanimité. Charles Guyard.
Alors là, on a une heure pour servir 200 repas.
Chaque midi, c'est le grand rush pour Jérémy, restaurateur ambulant.
Alors aujourd'hui, c'est tacos, bœuf haché, sauce barbecue, avec frites et sauce fromagère. Et en dessert, un petit yaourt aux fruits.
D'habitude, stationné en ville, son food truck est cette fois garé dans la cour du lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides. Une idée du chef d'établissement, Pierre Capelaire, pour désengorger la cantine.
Avec la distanciation de 2 mètres entre certains espaces en restauration scolaire, la surface n'étant plus suffisante pour accueillir les 1300 rationnaires chaque jour.
200 élèves récupèrent ainsi leur repas sur présentation de la carte scolaire, puis déjeunent sous un auvent dressé juste à côté. Et tout le monde est content. Jérémy, le responsable du food truck.
Dans les zones où on travaille, il y a une moindre activité en ce moment, due au télétravail d'ailleurs. Donc effectivement, là, ça permet de faire un peu de volume.
Les lycéens, eux, sont ravis de modifier un peu l'ordinaire.
C'est sympa, ouais, c'est bien meilleur qu'à la cantine. C'est tout le temps les mêmes trucs, c'est riz, blé, pâtes. Là, ça change.
C'est plus convivial. Maintenant, il fait beau, donc c'est pas mal de manger en extérieur.
Quant au directeur qui a fait du présentiel sa grande priorité, son initiative est saluée par les parents d'élèves pour qui le prix reste le même qu'à la cantine.
Bon appétit.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Un food truck à Europe 1, tiens, on devrait proposer l'idée à Constance Moin, qui est notre patronne. On va lui demander. 6h06 sur Europe 1. Emmanuel Macron attendu à Toulouse aujourd'hui à la rencontre des scientifiques qui ont travaillé sur le robot Perseverance, actuellement en mission sur Mars.
Oui, c'est au Centre National d'Études Spatiales de la ville que les ingénieurs ont développé la Supercam qui envoie chaque jour des images spectaculaires de la planète rouge. Magali Bouissouman est responsable des opérations instruments et depuis que le rover s'est posé, elle vit alors martienne.
On vit sur Mars, en complet décalage avec ce qui se passe sur Terre. On peut commencer à 10h le matin, midi, 3h. Au fur et à mesure, on se décale tous les jours en suivant justement Mars. Donc on se décale tous les jours de 39 minutes. Ce qui nous fait rêver, c'est de découvrir toujours ce qu'il y a à côté de nous, de découvrir une roche plus précisément, de voir ses textures, les traces que peuvent faire les roues quand le rover du coup se déplace. Et du coup, on suit ses premiers pas. Comme quand vous lâchez la main d'un enfant, chaque moment où on a pu récolter les résultats de ce qu'on avait fait, ça a été à chaque fois une explosion de joie. Premier tir, le premier pointage réussi, la première image qu'on a pu recevoir, on se dit oh « Ah !» Et toujours de se demander à quel moment on va pouvoir découvrir quelque chose qui va vraiment faire avancer la science, sachant qu'on a l'impression quand même de contribuer tous les jours à l'évolution des découvertes qui sont faites justement sur cette planète. Et nous, ça nous fait rêver, c'est beau, et on est content que ça puisse justement se transmettre vers les gens, parce que dans ce monde justement de Covid, ça apporte un petit peu de rêve et ça fait juste briller les yeux.
Témoignage recueilli par Benjamin Péter à Toulouse. Emmanuel Macron assistera aussi au tout premier exercice militaire spatial français et européen.
Oui, parce que les attaques entre satellites au-dessus de nos têtes, ça existe déjà. La France prépare sa riposte. Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de ces questions, vient nous en parler à 6h40.
Allez, on reste un peu dans les étoiles, Théo, car la semaine prochaine, le plus grand astéroïde de l'année frôlera la Terre à une vitesse de 124 km/h.
Alors aucun 124
risque.
000,
124, je crois. Oui, 124 000, c'est mieux. Merci beaucoup. Aucun risque de collision. Au plus proche, l'objet céleste se trouvera tout de même à plus de 5 fois la distance entre notre planète et la Lune, soit quelques 2 millions de kilomètres de nous.
Allez, à 6h08, on termine avec la 48e cérémonie des Césars, ce soir diffusée en clair et en direct sur Canal+, dans un contexte évidemment particulier.
Et d'abord parce que très peu d'invités seront présents dans la salle de l'Olympia, situation sanitaire oblige. Ensuite, parce qu'un an après le sacre de Roman Polanski et la sortie en trombe d'Adèle Haenel, la réforme de l'institution commence tout juste. Et puis, avec des salles obscures plongées dans le noir depuis des mois, le milieu du cinéma est en pleine crise. Mathieu Charrier.
130 personnes seulement seront assises sur les fauteuils rouges de l'Olympia. Les nommés et les remettants, qui n'ont pas le droit de venir accompagner. Côté remettant, justement, avec Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, on attend notamment Valérie Lemercier, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Louis Garrel ou Nathalie Baye. Mais pas Adèle Haenel. Il devrait quand même y avoir des prises de parole politiques sur la réouverture des salles, bien sûr. Surtout quand on sait que Blanche Gardin et Laurent Lafitte, réputés pour leur humour corrosif, sont à l'écriture des sketchs et vidéos qui rythmeront la soirée. Benjamin Biolay et son orchestre la mettront en musique. Une chose est sûre, il fallait que cette cérémonie ait lieu, explique la productrice Michèle Halberstadt.
Il y a des films qui sont sortis, il y a des films qui ont été faits, donc il faut faire des Césars. Il y a des Oscars, il y a des Golden Globes, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de César. Et c'est aussi l'occasion de dire, par rapport à l'année dernière, les choses ont changé.
Alors, 3 films partent favoris, Le Marivaudage d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, la comédie sociétale absurde Adieu les cons d'Albert Dupontel et L'amour destructeur et mélancolique de l'été 85 de François Ozon. La troupe du Splendide recevra un César anniversaire alors que le César du public est supprimé. Un nouveau prix apparaît, le César des lycéens, sur le modèle du Goncourt.
Et la cérémonie commence à 21h ce soir.
Merci, c'était le journal de Sophie Echan, il est 6h10.